J'en viens à la deuxième partie de mon exposé, pour dire que tout cela a également fait retomber, très important à analyser, du côté de la subjectivité des acteurs, de leur vécu, de leur expérience. Comment les jeunes vivent tout cela, c'est une question importante. Et pour poser cette question, je pense qu'il y a lieu de s'attarder sur deux ou trois éléments importants. Le premier point, et j'en viendrai très rapidement, c'est ce qu'on appellerait, ou ce que je pourrais qualifier, de rapport au travail. La question de l'emploi pose également la question du rapport au travail. Et le rapport au travail est déterminant pour comprendre comment, en quelque sorte, les jeunes aujourd'hui vivent exactement l'absence de travail, d'une certaine manière, ou le travail précaire, etc. Le deuxième point qui est très important, mais que j'ai formulé assez rapidement, en ce qui concerne les modèles de justice. Mais là, je vais les aborder beaucoup plus du côté, si j'ose dire, du problème, enfin du côté, si j'ose dire, de la subjectivité des acteurs, de leur perception de la chose, et c'est aussi très intéressant. Et puis le troisième élément, c'est exactement le vécu même de la précarité, comment, enfin, quand les jeunes bricolent, pour s'en sortir, pour résister, pour tenir, bon, d'accord, dans un contexte similaire. Alors, je commence par la question du rapport au travail. Cette question a été, vous le savez, très bien abordée par des sociologues, par exemple, ici en France, par Dominique Méda, bien sûr, ça, au Canada, par Jacques Amem. Et les premiers travaux sur le rapport au travail remontent même à des gens comme Habermas, d'accord, qui dit qu'il y a deux manières, en quelque sorte, de vivre le travail, deux types de rapport au travail, un rapport instrumental, le travail comme gagne-pain, comme moyen de gagner sa vie d'une certaine manière, et le travail comme expression de soi. Et l'hypothèse de Habermas, c'est qu'on va beaucoup plus vers le premier modèle, c'est-à-dire vers le travail instrumental d'une certaine manière. D'autres personnes critiquent cela, par exemple. Amel dit que non, ce n'est pas le cas. Alors la première donne peut-être le premier élément que nous avons, et ça je le tire un peu de l'enquête que j'ai faite auprès des ados. Nous avons eu l'impression envoyée de la Marfour, qui a monté ce travail sur les adolescents, qu'aujourd'hui en Tunisie, une bonne partie des jeunes ou des adolescents ont un rapport très instrumental dans le travail, tout compte fait. Et ceci, on le ressent à travers l'absence de la notion de vocation. Quand on demande, enfin, quand on demandait, enfin, quand je demandais moi-même et ma collègue si les jeunes avaient exactement quelque chose qui relève de l'ordre de la vocation, etc., ce qui ressortait, c'est surtout exactement l'envie, je dirais, une envie incroyable de réussite économique. Le plus important, c'est cela. Le reste n'est pas aussi important. D'autres enquêtes de type quantitatif donnent également des indications sur cela. Il y a une enquête qui a été faite sur l'Égypte et la Tunisie, une sorte d'enquête préparée sur un petit échantillon, je crois, de 400 personnes, montre par exemple que les jeunes Tunisiens, dans leur évaluation du travail, mettaient en première ligne le rendement économique du travail. Et ensuite, la question du statut. Le choix du travail se fait d'abord en fonction de ce critère, d'accord. Et cette enquête est assez intéressante, elle a été faite par la Ligue arabe en 2006. Deuxième élément peut-être important à souligner quand on pense en termes de rapport au travail, c'est que ce rapport au travail est modulé, si j'ose dire, en fonction du genre. Être homme ou femme. Le travail est central dans les projets de vie des hommes, beaucoup plus que chez les femmes, encore plus, ça se passe toujours comme ça encore, où exactement elles ont parfois cette possibilité de jouer sur le couple, activité professionnelle, famille. Et quand exactement ça ne marche pas du côté du travail, elles se rabattent d'une certaine manière sur exactement, elles se rabattent sur le plan identitaire, si je veux dire, sur exactement. Sur la vie familiale, sur l'investissement dans la vie familiale. Mais également, c'est important de le dire, cette variation chez les femmes en matière de rapport au travail est modulée également en fonction des moments ou des positionnements dans les parcours de vie. Les jeunes filles n'ont pas la même attitude que les femmes mariées. Les femmes mariées qui ont des enfants n'ont pas la même position par rapport au travail exactement que les femmes mariés qui n'ont pas d'enfants, etc. Et, par exemple, lorsque exactement le travail n'apporte aucune forme de gratification, ou presque, d'accord, il est tout à fait logique, dans ce contexte-là, que les femmes exactement, choisissent exactement la famille au détriment exactement du travail. Cela dit, il est certain que, exactement, pour les jeunes filles, par exemple, qui sont au début de, de parcours de vie, d'une certaine manière, le travail peut devenir toujours, et ça c'est important, peut-être c'est pas le cas partout en Tunisie, mais en Tunisie, un peu partout en Rwanda, mais en Tunisie c'est le cas, le travail peut devenir un objet central dans la vie des jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'exactement, à la fois il apporte, je dirais, des gratifications instrumentales, c'est-à-dire il permet d'avoir une autonomie économique, de répondre à des besoins économiques, mais aussi parce qu'il permet exactement d'avoir une certaine sociabilité, parce qu'il permet d'avoir un statut différent, parce qu'exactement, il permet une certaine reconnaissance et une réalisation de soi. Hein? Et je pense que cela est important à souligner. Dernier point important dans le rapport de travail, et je termine la première partie avec cela, c'est le rapport privé-public. Il est évident que, bien sûr, et je n'ai pas besoin peut-être de rappeler, que le public continue à être toujours la meilleure solution pour les jeunes. Et peut-être que les déboires, si j'ose dire, les problèmes à voir et entamer, je dirais, à finir par avoir un emploi stable dans le privé, conduit de plus en plus les jeunes, paradoxalement, à aller vers le public. Hein. Pour une bonne partie des jeunes, l'emploi ou le travail dans le privé correspond à ce qu'on appelle, les économistes appellent, des emplois de transit ou d'attente. Hein. Je fais du privé en attendant de pouvoir être inséré définitivement dans le public. D'accord ? Et il y a pas mal de données là-dessus, statistiques. Par exemple, il y a des données qui montrent que 53% des jeunes pensent toujours que exactement les emplois les plus sûrs sont dans le secteur public. Il y a également des données qui montrent qu'une bonne partie des employés, enfin 48% des jeunes employés salariés, d'accord, se déclarent à la recherche d'un emploi meilleur. Et on peut émettre l'hypothèse que cet emploi meilleur exactement est un emploi exactement qui est exactement dans le secteur public. Et on assiste par rapport à cela, ce que j'essaie de rappeler, un pantouflage à l'envers. C'est-à-dire, vous savez, il y a un pantouflage en France, c'est-à-dire d'aller vers le public, vers le privé pour avoir des. Ici, c'est exactement le contraire. On commence par le privé dans l'attente d'un emploi public qui permet exactement de régler une fois pour toutes la question de la. De la sécurité, et je pense que là-dessus, il n'y a pas que cette culture du secteur public qui joue. Je pense que les jeunes, par rapport à ça, ils sont lucides. Ils voient réellement que les emplois du privé sont des emplois majoritairement précaires. Et les chiffres et les statistiques leur donnent en partie raison, malheureusement. Alors, j'en viens maintenant au deuxième point, qui est fondamental à mes yeux, qui est cette question des modèles de justice. Alors, vous savez que sur cette question, il y a eu des travaux très intéressants sur ce qu'on appelle la frustration relative. Hein, des travaux surtout de Stouffer, ce chercheur américain qui a dirigé ce monumental travail de l'American Frontier. D'accord ? Et Stouffer, il dit qu'exactement, le problème de la frustration, ce n'est pas la frustration tout court. C'est cette frustration relative. Pourquoi elle est relative, cette frustration? Elle est relative parce qu'exactement, elle est, je dirais, fondée essentiellement sur des processus de comparaison sociale. Hein? On est frustré, on est d'autant plus frustré, on est doublement frustré, parce qu'exactement, on fait deux types de comparaisons. On compare exactement ce qu'on a à ce qu'on devrait avoir, entre guillemets, à ce qu'on mérite d'avoir, et on se compare soi-même à d'autres. Et ce double processus de comparaison fait que les jeunes tunisiens, et Rafaïd a travaillé sur ça, les chercheurs tunisiens a travaillé sur ça, montrent que les jeunes tunisiens, surtout diplômés, sont doublement frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils pensent qu'exactement ils n'ont pas ce qu'ils méritent, d'accord, dans l'ordre des choses, que leur diplôme leur devrait permettre d'accéder à des emplois honorables, d'une certaine manière, et puis ils se sentent frustrés parce qu'ils voient autour d'eux des personnes qui réussissent en mettant en valeur, en mettant en avant, des capitaux qui ne sont pas plus légitimes que les leurs. C'est-à-dire, par exemple, le réseau familial, le pouvoir de l'argent. Hein, et on trouve dans le discours des jeunes beaucoup de choses autour de ça, hein, des fils à papa, de ce que Bourdieu appelle tout simplement les héritiers, hein, qui accèdent, je dirais, qui ont la chance de pouvoir accéder à des emplois, qui, aux yeux de ces frustrés, entre guillemets, ne méritaient pas. Alors, Et également dans l'éducation des jeunes, on trouve beaucoup de choses sur exactement une analyse assez fine quand même hein, d'un système éducatif à deux vitesses. Hein. Les filières poubelles, où les jeunes finissent par exactement se retrouver nécessairement au chômage, et des filières exactement de marque, en quelque sorte, de première classe, où se tiennent des campagnes de recrutement, d'accord, pour les jeunes élèves, etc. Moi je pense que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la question suivante. Qui est l'analyse qui porte sur la centralité du diplôme hein, dans la vie et dans les attentes des jeunes diplômés. D'abord, la première chose qui est très importante, c'est que le diplôme, en quelque sorte, l'obtention du diplôme attise les attentes, si j'ose dire. Fait également monter, d'une certaine manière, le niveau des attentes. Et il est normal que les jeunes, ou des jeunes qui ont dépensé 20 ans de leur vie à faire des études, ne peuvent pas, comme ça, hein, du jour au lendemain, faire abstraction de toutes ces années de labeur, de travail et d'investissement pour eux et pour leur famille. Et ils n'arrivent pas à accepter l'idée que, exactement, ce diplôme-là s'avère, d'une certaine manière, comme le dit Philippe Favre, un chèque sans provision. Quelque chose qui n'a pas de rendement, qui correspond à rien. Un diplôme tronqué, un diplôme vide, en termes de potentialité d'emploi, d'une certaine manière. À leurs yeux, d'accord, le diplôme doit continuer de garantir un minimum de dignité aux individus. Et ce qu'il reproche à l'État, et c'est ça ce qui est intéressant à noter, ce qu'il reproche à l'État, c'est que l'État faillit d'une certaine manière à son rôle également de certificateur. Vous savez que très bien en Tunisie, jusqu'à aujourd'hui, hein, l'État continue à être l'organe principal qui donne des diplômes. Alors, quand l'État lui-même donne des diplômes qui ne correspondent plus à rien, d'une certaine manière, hein, cela pose un gros problème. Ce qui est intéressant également à noter, c'est que la dépréciation et la dévalorisation des diplômes et des titres universitaires met à mal les modèles de justice sociale parce qu'elle reconfigure d'une certaine manière les rapports hiérarchiques entre travail, réussite économique, mérite, savoir, etc. Hein? Par exemple, les jeunes sont choqués de voir devant eux, de manière étalée, hein, cette montée en puissance du pouvoir de l'argent. Ils sont choqués aussi de voir, par exemple, et ça ils le disent dans le discours, par exemple, moi je me rappelle dans l'enquête adolescente, c'est quelque chose qui ressort de manière de voir qu'exactement qu'un footballeur peut gagner 1000 fois ce que gagne exactement quelqu'un qui a fait énorme. Hein, et quelqu'un qui n'arrive pas d'ailleurs, d'accord, peut-être à passer le concours et à réussir, même s'il a tous les diplômes possibles et imaginables. Alors, moi je pense que tout cela fait, toute cette idée qu'exactement on a du mal à faire table rase de son travail, à faire abstraction de ce diplôme, fait que pour les jeunes, les possibilités de reconversion ou de déclassement sont difficiles à vivre. Hein, nécessite, en quelque sorte, ou demande un coût identitaire très élevé. On a du mal, les jeunes ont du mal, hein, à se détacher d'une sorte de raison statutaire, celle que donne le diplôme, d'accord, pour aller vers des visions où exactement le mérite scolaire, universitaire, ne veut plus rien dire, par exemple. Hein, ils ne peuvent pas se détacher de cette idée que, exactement, j'ai un statut que je dois à mon diplôme. Parce que ce diplôme leur donne, je dirais, une image d'eux-mêmes assez valorisante. Et je pense que c'est très important de le rappeler. Derrière cela, c'est toute la question des signes de soi, en quelque sorte, qui se joue, et du rapport à soi-même, et de la définition de soi-même qui se joue. Alors, je termine mon propos avec des éléments, je crois que j'ai dépassé beaucoup le temps, avec des éléments qui me sont très importants. D'abord, bien sûr, cela conduit, tout ce que je viens de décrire, conduit à une sorte de on va dire, de, d'explosion exponentielle de la forme. Nous n'avons pas de chiffres importants, clairs sur ça, les chiffres que j'ai moi carrément à la fin des années 90, mais je sais que surtout après la révolution, je crois que l'informel a pris une place, une dimension effarante. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque qui est très importante concerne exactement le vécu du chômage et de la précarité. Comment les jeunes vivent le chômage? Alors, Hayek, qui a fait un beau travail sur ça, dit que le chômage est vécu en une vie sur deux modalités seulement, de deux manières. Ce qu'il appelle le chômage total, qui veut dire désocialisation, qui veut dire humiliation, qui veut dire sentiment de honte, qui veut dire sentiment d'inutilité, etc. Et deuxième manière de vivre le chômage, ce qu'il appelle le chômage différé. Et là, il reprend exactement les travaux de Dominique Schnapper en France, etc. C'est quoi le chômage différé? C'est ce chômage dans lequel le fait de rechercher un emploi devient en quelque sorte lui-même un emploi, une occupation à plein temps. D'accord? Et il y a des jeunes qui, exactement, en quelque sorte, hein, finissent par être dans une sorte d'acharnement hein, dans la recherche d'emploi qui leur permet, en quelque sorte, au moins de sauver leur image d'eux-mêmes. Et ça, c'est important à le souligner. Alors, également, face à cette situation, nous avons deux types de parcours. Hein. Il y a des parcours que Blamor, le sociologue tunisien, appelle des parcours d'inscription dans la précarité. Il y a des jeunes qui finissent par s'installer dans des situations dans lesquelles ils n'arrêtent pas de multiplier des expériences non concluantes, non cumulatives, de tenter des coups par-ci, par-là, d'accord, et qui finissent par tourner en rond. Et Benoît rappelle très bien que ces jeunes-là développent ce qu'il appelle des compétences rhétoriques. Ils n'ont plus la capacité de monter des projets sérieux, crédibles, mais voilà, ils finissent par être dans une sorte de dénonciation permanente des conditions du travail, du rapport à leur patron passager, etc. D'accord, de distance critique par rapport au dispositif exactement de formation et d'emploi mis en place par l'État, etc. Le deuxième parcours, c'est exactement des parcours de sortie de précarité ou de résistance à la précarité, mais dans ces parcours de résistance à la précarité, on trouve toutes sortes de choses, des projets un peu plus assumés, un peu plus clairs, des options un peu plus nettes, une mobilisation en tout cas du mut, de toutes les ressources possibles, familiales, financières, amicales, etc. Hein. Et ici, en quelque sorte, les jeunes mettent en avant cette idée de pouvoir se prendre en charge, d'être capable de s'en sortir, etc. Voilà à peu près ce que nous donnent les enquêtes qualitatives. Ce que nous donnent maintenant les enquêtes quantitatives, c'est aussi intéressant. Il y a eu une enquête qui a été menée par la Banque mondiale sur les étudiants, je crois, sur la promotion 2004. L'enquête a été effectuée en 2006 et publiée en 2008. Et dans cette enquête, on trouve des données intéressantes sur les parcours. Alors, l'enquête montre qu'il y a quatre types de parcours sur le marché du travail qui sont les suivantes. Un parcours de stabilisation, mais il ne concerne que 12% des jeunes diplômés. Des parcours de chômage persistant, et il concerne 38%, c'est-à-dire pratiquement, presque, enfin, moins que, je ne sais pas moi, c'est combien, quand, presque 40%, d'accord, des jeunes. Des parcours d'alternance entre chômage et dispositifs publics d'emploi. Des jeunes qui commencent par exemple dans des contrats SIVP, après qui reviennent, etc. D'accord. Et puis, des parcours de retrait ou de refus d'accès au marché d'emploi. Et chez ces jeunes, on trouve beaucoup, bien sûr, de jeunes qui s'inscrivent dans des cursus post-diplôme. Et il y a quelque chose d'important à souligner par rapport à ça, c'est que chez ces jeunes, une bonne partie. Une bonne partie de ces jeunes qui vont vers l'idée de faire des masters, etc., d'accord, ou des thèses, ils le font par dépit. Ils ne le font pas par choix, par investissement personnel. Ils le font exactement pour trouver le moyen de meubler ce temps d'attente. Alors je termine très rapidement avec deux points très importants. Quels sont les positions, quelles sont les attitudes des jeunes, comment ils finissent par bricoler, je dirais, leur vie face à cette situation de précarité. Les enquêtes également qualitatives montrent que les réactions des jeunes, leur stratégie, leur attitude face aux situations de précarité vont de l'attente et la dédramatisation à la reconversion, le déclassement, à la débrouille, etc. Hein, c'est à peu près les 3-4 types de réactions. Soit on attend et on dédramatise, hein, on attend de meilleurs jours, d'accord. Soit on essaie de se débrouiller en allant vers la voie du déclassement et de la reconversion, soit en fin de compte, on est dans les petits projets, surtout ce qu'on appelle la débrouillardise, la débrouille. Il y a eu des travaux sur la débrouille des jeunes. Par exemple, Tenda, Interarabe, a fait une enquête en particulier sur la débrouille dans les quartiers périurbains de Tunis. Alors, je vais dire deux mots sur chaque point. Concernant l'attente, l'attente, bien sûr, c'est d'abord la poursuite des études, ce que je viens de dire. Et puis l'attente également, en quelque sorte, a plusieurs subterfuges. Par exemple, le fait d'attendre les concours. Les concours eux-mêmes sont des couloirs d'attente. J'attends de passer le CAPES l'année prochaine, et après j'attends, etc. Et après, et cela permet aux jeunes, d'accord, de structurer leur temps, d'une certaine manière, de structurer le temps de l'attente. Deuxième élément très important dans cette question d'attente, c'est que l'attente a ses espaces. Et il y a des travaux, il y a des choses très très ethnographiques très intéressantes sur les temps de l'attente, sur les espaces de l'attente, et en particulier sur le café comme espace d'attente, hein. Le café, bien sûr, surtout pour les garçons, hein, le café qui permet aux jeunes, surtout aux jeunes de sexe masculin, de faire semblant, en quelque sorte, d'avoir une activité, de se donner l'illusion d'avoir une activité, d'avoir une vie dans l'espace public, parce que l'espace domestique, dans l'imaginaire collectif, reste quand même toujours un espace assez féminin. Hein. Et exactement, le café qui permet aux jeunes, surtout de sexe masculin, d'éviter la désocialisation, d'accord, et peut-être parfois même d'essayer en quelque sorte de régler leurs problèmes de l'emploi en rencontrant des gens, en essayant de bricoler des projets, etc. Mais retenez bien cette idée qu'il y a des espaces pour l'attente, et c'est important de le souligner. Deuxième chose qui est très importante, deuxième point, c'est la reconversion. Mais comme je l'ai dit, la reconversion a un coût très élevé sur le plan identitaire. Hein. Pourquoi son coût est élevé? Parce qu'exactement, la reconversion nécessite des formes d'expérimentation, des formes de socialisation secondaire, apprendre un autre métier, qui sont parfois hasardeuses, hein, ces formes d'expérimentation. Hein. C'est pas sûr de pouvoir apprendre un autre métier que celui qu'on a appris à l'école, d'accord, ou à l'université. Cette reconversion nécessite une sorte de dissociation pragmatique entre travail et profession. Nécessite, par exemple, la croyance en la valeur absolue du travail, quel qu'il soit. Nécessite de mettre un accent, d'accord, sur la réussite économique, et nécessite surtout d'accepter la valeur non marchande de certains diplômes. Enfin, accepter de fait que son diplôme ne vaut rien sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire accepter que toutes ces années soient passées en vain sur les bancs de l'école. Alors, très souvent, les enquêtes montrent que c'est les garçons qui se dirigent vers exactement la reconversion. Les filles vont beaucoup plus vers le déclassement, c'est-à-dire vers le fait d'accepter des emplois qui sont nettement moins bien rémunérés que ce qu'elles peuvent théoriquement exiger de par leur diplôme. Et ceci consiste, comme le disent les économistes, par une révision à la baisse du salaire de réserve, ce qu'on attend de son diplôme. Hein. Au départ, on attend 500 dinars, après on accepte un travail à 200 dinars. Pourquoi? Parce qu'exactement, les années filent et on n'arrive pas réellement à trouver un emploi qui correspond théoriquement à ses attentes légitimes par rapport au salaire, etc. Alors, il y a la débrouille, les petits projets, il y a des parcours très sinueux par rapport à ça. Et puis, et je termine là-dessus, peut-être c'est quelque chose que je n'ai pas avancé, mais bien sûr le rêve de partir. Et de partir par les voies d'une migration illégitime, clandestine, la harqa. Alors sur la harqa en Tunisie, il y a des travaux extraordinaires. Il y a surtout les travaux du ministre actuel de la Culture, qui est un bon sociologue, mais il est moins bien comme ministre, je pense, que comme sociologue, d'accord, qui a travaillé beaucoup sur ça, qui a fait beaucoup d'enquêtes dans la région de Marie, et il est originaire de cette région. Moi, je le connais bien, c'est un camarade de promotion, et il a fait des travaux très fins sur ça. Moi, je pense que ce qu'il montre dans ses travaux sur la harka, c'est la chose suivante. C'est que la harka, bien sûr, il y a la harka d'abord, il y a l'immigration clandestine comme fantasme, comme rêve, qu'on construit un peu dans les quartiers, avec les coupes des pères, dans les espaces de proximité, etc. Et puis, il y a la harka plus planifiée, l'immigration comme projet réellement construit petit à petit, on cherche des ressources, des financements, on demande de l'argent à la famille, on s'agite, on essaie de pénétrer les réseaux enfin de l'immigration clandestine, etc. Et puis le plus intéressant, c'est la chose suivante. Mabrouk, Mahdi Mabrouk, ce sociologue-là, montre que, en fin de compte, la harka, en fin de compte, c'est beaucoup plus que la recherche de travail. C'est une manière de se racheter. C'est une manière, en quelque sorte, d'échapper au stigmate du chômage et de la dépendance et de repartir à zéro, de renaître de ses cendres d'une certaine manière et de briser le cercle vicieux d'une vie qui tourne en rond. Et ça, c'est fondamental. Je crois que pour comprendre exactement ce qui se passe au niveau d'imaginaire des candidats à la harka, il faut être conscient de cela. Dernier détail, et je terminerai vraiment là-dessus, de ce que dit Mabrouk, en décrivant un peu et en travaillant sur la rhétorique des jeunes candidats à l'immigration, il dit que dans leur discours, il y a quelque chose qui apparaît. Il y a une catégorie qui apparaît, et je pense que le qualitatif permet cela également, de repérer les catégories langagières importantes dans le discours des acteurs. Il y a un mot qui revient très souvent, c'est le mot fadda. Et le mot fadda, fadda en tunisien, en dialecte tunisien, veut dire, comment dire, étouffement. Un sentiment d'étouffement, un sentiment d'oppression, voilà, si j'ose dire. Ces jeunes-là, hein, ils disent qu'ils sentent qu'ils sont oppressés, au sens presque du terme, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus respirer tant dans leur milieu. Et ils attendent exactement d'aller vers les rives de cette année. Voilà, je vous remercie. Merci.